When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et vous pouvez soutenir mon travail sur Patreon. Vous en saurez plus en cliquant sur le lien dans le descriptif de cet épisode. Bonne écoute! Aujourd'hui, sur So Sweet Planet, je vous propose un podcast consacré au film Ziska Khan, une révolution créole, un film documentaire de 52 minutes, écrit et réalisé par Sébastien Follin, raconté par Abdal Malik, d'après une idée originale de Maya Kamati. Ce film vient de recevoir le prix Coup de cœur de l'Académie Charles Cros 2023, un prestigieux prix, et il sera diffusé le 1er mai 2023, à 23h sur France 3. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir donc de recevoir son réalisateur, auteur et producteur que vous connaissez sans doute déjà en tant qu'animateur, mais qui a fait plein d'autres choses, Sébastien Follin. Bonjour Sébastien.
Bonjour Anne.
Je vais lire un petit passage du texte de présentation, parce que comme ça, ça se sera fait, et c'est tellement dense en fait que j'ai fait ce choix déjà. Ça nous permettra ensuite de partir sur la suite. Donc Ziska Khan, une révolution créole, documentaire de 52 minutes en créole réunionnais, sous-titré, raconte le combat pacifique mené par le groupe Ziska Khan, collectif d'artistes, d'intellectuels et de militants dans les années 70 à l'île de la Réunion. À cette époque, la langue créole et ses avatars culturels étaient absents de l'espace public et dévalorisés par le pouvoir politique. Pour contourner la censure, les concerts clandestins et les fanzines distribués sous le manteau ont participé à la naissance d'un mouvement dont le ciment a été une solidarité sans faille. Pour la première fois, cette jeunesse réunionnaise racontait sa réalité et dessinait un portrait sans artifice de la Réunion. Une lutte qu'ils ont menée sur le terrain de la parole à travers les contes, les poèmes et les chansons. 43 ans après la création du mouvement, alors que le groupe a fait le tour du monde, que le Maloya est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et le créole enseigné à l'école, le film interroge ses pionniers sur leur motivation, leur histoire, leur héritage et brosse un portrait sans concession de la Réunion post-coloniale où ils ont évolué. Ziska Khan, une révolution créole, est autant l'histoire d'un mouvement artistique que celle de la quête identitaire d'un bout de France de l'océan Indien. Donc toi Sébastien, tu as été entre autres animateur radio, télé, directeur d'antenne, DJ, tu as réalisé des pubs, des clips, des magazines musicaux, tu as aussi un parcours d'engagement et de réalisation professionnel par rapport à l'environnement. Tu es d'ailleurs président d'honneur du festival Atmosphère à Courbevoie, un beau festival de cinéma et développement durable. Tu es à leur côté d'ailleurs depuis 2011, donc ça ne date pas d'hier.
Depuis le début, ouais.
Voilà, et tu es donc aujourd'hui auteur, réalisateur et producteur de Ziska Khan, une révolution créole, qui est ton premier documentaire en tant que réalisateur. Est-ce que c'est le sujet qui t'a donné envie de passer à la réalisation ou comment ça s'est fait, le début de cette histoire?
Oui, c'est un ensemble de choses. C'est-à-dire que moi, je réalise depuis longtemps et puis mes activités d'animateur et de producteur m'ont éloigné de cette partie de ce que je sais faire. Moi, j'ai longtemps réalisé, quand je suis arrivé à Paris, des pubs, des magazines, des clips. Ensuite, je me suis consacré à ma carrière d'animateur qui a été assez dense pendant... pendant pratiquement 20 ans ici dans l'Hexagone, parce que j'étais à la radio, j'étais sur plusieurs médias, j'avais des quotidiennes, des hebdos, plus les émissions, captations, documentaires et désormais fiction que je produis. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas se démultiplier. Et puis en 2015, j'avais dans ma tête quand même cette envie depuis longtemps de me remettre à réaliser, parce qu'au fond, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et j'ai ce truc très, très enfantin, au sens propre du terme, donc c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, de vouloir m'amuser. Et j'ai du mal à choisir, parce que tout ce que je fais, je l'aime, et j'ai toujours voulu faire ce que je fais aujourd'hui. Et en 2015 ou 2016, Maya Kamati, qui est la fille de Gilbert Pugna et Annie Grondin, qui sont deux des membres fondateurs de Ziskakan, on s'était contactés, elle était en tournée en France, moi je la connais depuis qu'elle est petite, et puis elle me disait, c'est moi qui lui avais dit, moi j'aimerais bien réaliser un doc, enfin produire, à l'époque produire un doc, sur elle, sur la jeunesse, les jeunes artistes réunionnais qui sont aujourd'hui en action pour donner une dimension contemporaine et moderne de la musique traditionnelle. Et c'est elle qui m'a dit non mais viens, faisons plutôt un documentaire sur l'histoire de Ziskakan. Et donc ça a mûri, je lui ai dit ouais super idée, si ce n'est qu'elle était à ce moment-là en train de s'occuper de la sortie d'un album. Moi j'étais encore très occupé parce qu'à cette époque-là je présentais sur France O, France 3 et TV5 Monde, plus mes productions. Et puis après le confinement, je la fais court, après le confinement, on s'est revus, début 2021, et je lui ai dit, mais il faut vraiment qu'on fasse ce documentaire, d'autant que j'en avais parlé à France Télévisions, qui à ce moment-là était aussi dans une restructuration de son pôle Outre-mer, puisque Franceau avait fermé, il y avait différentes choses, donc c'était pas forcément le bon moment, et là, ça a été le bon moment. Le pôle Outre-mer de France Télévisions m'a dit, mais nous, ça nous intéresse. Donc on a commencé à travailler avec Maya sur ce film. Au début, on était parti pour l'écrire et le réaliser ensemble. Et puis petit à petit, d'abord, elle a été très occupée. Et puis elle m'a surtout laissé la main petit à petit pour réussir à en faire un film personnel. Je pense que Maya, et c'est légitime, voulait faire un film hommage à ses parents et vraiment un film historique, hagiographique, biographique sur Ziskakan. Et moi, j'avais envie de lui donner une dimension peut-être plus sociétale. Et donc, elle m'a laissé doucement prendre les rênes. Donc, j'en suis devenu l'auteur. Puis, à un moment donné, c'est tombé sous le sens et la chaîne me l'a demandé que je le réalise. Et donc, voilà, les choses se sont faites de manière assez naturelle. On a eu un go de la chaîne fin 2021, tournage juin 2022, montage à l'automne 2022. Et la diffusion, c'était au mois de mars à La Réunion avec une avant-première le 9 mars, puis une avant-première parisienne le 20 mars. Diffusion le 24 mars à La Réunion, en version évidemment originale non sous-titrée, et puis diffusion le 1er mai sur France 3 National.
Et tu dis que tu connaissais Maya depuis qu'elle était petite, tu as connu Ziskakan quand et comment? Alors, toi, ça fait longtemps que tu les connais.
Donc. Oui, je les connais depuis longtemps. Moi, je suis réunionnais. J'ai fait toute une partie de ma carrière là-bas. J'ai commencé à faire de la radio. J'avais 15 ans. Et donc, une fois passé le bac, j'ai aussitôt enchaîné sur ma carrière professionnelle. Et en fait, le premier souvenir, et c'est Gilbert Pugna qui me l'a rappelé, c'était 1989. Donc, j'avais 19 ans. Je ne savais pas
Gilbert
très bien qui
était. Gilbert Pugna de Ziskakan. De
Ziskakan, oui. Exactement. Ziskakan venait de fêter ses 10 ans. Et je me rappelle vaguement. Je crois qu'à l'époque, je devais être sur une radio associative. Je devais être encore au lycée. Et je suis allé dans une espèce de conférence de presse pour les 10 ans du groupe Ziskakan. Donc avec mes 19 ans, sans trop savoir de quoi il s'agissait. Je ne connaissais pas le groupe. Pour moi, c'était des hippies indépendantistes, mais ça m'intéressait. Je ne connaissais pas leur musique. À l'époque, moi, à 19 ans, j'écoutais de la musique occidentale et j'allais en boîte et je rêvais d'être disque jockey et de travailler à Énergie Paris. Et c'est Gilbert qui m'a rappelé, qui m'avait vu dans son... D'ailleurs, j'étais touché qu'il s'en rappelle, qui m'avait vu dans mon petit coin. Et je me rappelle après coup y avoir été et que j'étais assez timide et que j'avais posé des questions assez simples. Je n'étais pas un grand journaliste. Et ça, c'est la première rencontre. Et puis ensuite, j'ai présenté des émissions musicales à La Réunion, des émissions culturelles. Et là, ça a été le début d'une relation qui est devenue amicale par la suite. Et j'ai notamment fait beaucoup d'émissions avec lui dans les années 90 sur ses albums, dont ceux qu'il a sortis au niveau international chez Island. Et on avait fait des émissions spéciales, dont une au Théâtre de Saint-Gilles, qui est un magnifique théâtre en plein air, sous les étoiles. Et, Et voilà, ça c'est donc ça fait longtemps, hein, parce que là je vous parle de 89, donc ça fait c'est une amitié de 34 ans. Et c'est amusant, et c'est Gilbert qui me l'a dit, puisque 34 ans après, le petit garçon timide de 19 ans a réalisé un film sur eux, leur rend hommage. Et c'est un film, moi je suis. Et tu sais, tu m'as parlé tout à l'heure, tu as ouvert en parlant du prix de l'Académie Charles Cros. Oui. Évidemment, je suis extrêmement fier de l'avoir reçu en tant que réalisateur et producteur, mais c'est eux qui l'ont reçu. Et quelque part, quand je vois le trajet, je trouve que l'histoire est belle. C'est-à-dire que le petit garçon timide, qui ne savait pas qui ils étaient, leur a offert un prix de l'Académie Charles Cros 34 ans après. Et je trouve ça très émouvant. Donc voilà, c'est les jolis cadeaux de la vie et les jolis cadeaux de l'histoire.
C'est vrai. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi encore, si tu veux bien, avant bien de sûr. Parler plus de Ziskakan, de ton cheminement personnel par rapport à ton identité, puisque en fait, tu en parles hein, dans la présentation du bien film que j'ai reçu. Donc, à l'île de la Réunion, aux héritages, donc de ton cheminement personnel par rapport à ton identité, à l'île de la Réunion, aux héritages culturels et aux transmissions officielles de l'histoire qui ne coïncident pas toujours avec la réalité vécue sur place. Dans le petit texte de présentation, on lit « C'est pour lui, donc pour toi, c'est pour lui l'occasion de raconter l'identité plurielle de son île à la croisée de trois continents. » Donc dit comme ça, ça semble simple en fait, mais dans le texte que toi tu as écrit, qui est en dessous de cette présentation, du documentaire, on lit « Qui suis-je ? Cette question n'est pas que philosophique, elle est hautement politique. Ne me la suis jamais posée tant que je vivais à La Réunion. Puis, arrivé à Paris, il a fallu que je me définisse, français d'ailleurs, d'ici et de là-bas, avec une injonction à m'intégrer dans mon propre pays, en effaçant la complexité de mon identité asiatique, africaine, européenne. » Est-ce que tu peux donc nous expliquer ce qui, dans ton parcours personnel, t'a fait t'intéresser à Ziskakan au point de faire aujourd'hui ce documentaire?
C'est un cheminement naturel, c'est-à-dire qu'en arrivant à Paris en fin 99-2000, donc j'avais passé toute ma vie dans l'océan Indien et j'arrivais ici. Alors j'ai passé un peu de temps ici quand j'étais gamin, mais voilà, je m'installais ici avec ma culture réunionnaise en tant que créole, sans vraiment me poser la question de ce que j'étais, c'est-à-dire qu'on a à La Réunion une vraie complexité de société que je n'avais jamais interrogé d'ailleurs. Je l'ai interrogé plus tard. Au début, je voyais quelque chose d'assez simple, d'assez naturel, avec ce que l'on dit des Chinois, des Arabes avec un Z, hein, les Arabes de La Réunion. C'est comme ça qu'on définit les Indiens musulmans, les Malbars, qui sont les Indiens tamouls du sud de l'Inde. Il y a des Kafres, qui sont les Noirs africains. Tout ça, c'est de la descendance. Il y a les Yabs, qui sont les petits blancs des hauts, qui sont des personnes d'engeance sociale modeste, et les gros blancs, qui sont les descendants des gros propriétaires terriens. Et voilà, ça, et puis moi j'étais là-dedans, je me trouvais là-dedans avec mon identité créole. Et on est tous créoles. On est tous créoles, c'est ça qui fait la différence, même si on identifie bien clairement les groupes ethniques. Et malgré tout, il y a un tel métissage que parfois vous allez tomber sur des personnes à la peau foncée, avec les yeux bridés, éventuellement même les yeux clairs. Il y a des mélanges qui font qu'à un moment donné, on se dit c'est créole, quoi, tout le monde est créole. Et en arrivant ici, c'est vrai que ça m'a amusé. Au début, je suis arrivé à TF1 pour faire la météo, et il avait été clairement dit à l'époque, il m'avait été clairement dit par Étienne Moujotte que l'objectif c'était de donner plus de diversité. À l'époque, on n'appelait pas ça comme ça, on appelait ça de mettre plus de minorités visibles à l'antenne, ce qui est quand même un terme horrible, de minorités visibles. Mais bon, toujours est-il qu'il faut bien dire quelque chose. Aujourd'hui, on dit racisé, diversité, il y a toujours des débats là-dessus. Moi, globalement, on s'en fout de la manière dont c'est défini. L'idée, c'est de mettre en avant une forme de différence sociale, ethnique, et toutes les formes d'altérité. Et je me rappelle d'une interview, je ne sais plus si c'était au Monde ou à l'Express, et le mec me dit, mais vous êtes quand même un bel exemple d'intégration. Et là, je suis tombé de ma chaise, je dis, comment ça, de quoi vous parlez? Il me dit, bah quand même, j'ai dit mais je suis français, je suis né à Madagascar certes, mais je suis né français, j'ai grandi à La Réunion. La Réunion est française depuis 1664, donc elle est, enfin si on prend un exemple, la Savoie est française depuis 1860. Est-ce que vous allez voir un Savoyard et vous lui dites qu'il est un exemple d'intégration? Non. Bah d'autant que vous ne lui dites pas parce qu'il est blanc en fait. Donc le fait d'avoir un taux de mélanine un peu plus élevé que d'autres ramène forcément à une différence aussi, une différence qui a un lien avec, avec l'étranger, à l'inverse des autochtones. Donc c'était assez intéressant d'être confronté à ça. Et ça m'a amené aussi, en m'éloignant de mon île, à me rapprocher de mon île et à m'intéresser à ce qu'elle était, à son histoire qui ne m'avait pas été enseignée. Et donc j'ai commencé, avec mon épouse qui est réunionnaise aussi, à lire des livres, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de littérature, mais en fait on ne nous a pas appris vraiment nos origines, on nous apprenait, alors ça a changé par rapport à l'époque de Ziskakan déjà dans les années 70, mais aujourd'hui on enseigne en effet un peu plus l'histoire de l'esclavage, de l'engagisme, mais ça a mis un temps fou, donc moi ce que je fais toujours comme parallèle, c'est-à-dire qu'on est capable de dater la naissance de l'univers à 13 milliards 800 millions d'années, la naissance de la Terre 5 milliards, l'apparition du vivant 3 milliards et demi d'années, c'est énorme, 3 milliards et demi d'années, les dinosaures disparaissent il y a 65 millions d'années, et les 360 dernières années d'existence de cette île, c'est-à-dire un claquement de doigts à l'échelle de l'univers, on est incapable de dire exactement ce qui s'y est passé. Et c'est intéressant de creuser, et petit à petit, ce qui est remonté à la surface, c'est que la créolité est complexe, elle est multiple, elle est asiatique, elle est africaine, elle est européenne, elle est faite d'amour, mais aussi de sang et de larmes. Et souvent, ce sang et ces larmes sont catégorisés, c'est-à-dire que on se retrouve avec des gens qui sont les dépositaires, enfin qui sont les héritiers de ce sang et de ces larmes, et puis d'autres qui sont héritières qui sont victimes, et d'autres qui sont des bourreaux. Or, aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et il faut faire face à cette histoire. Si on prend l'exemple de Gilbert, il me dit que lui, quand il était gamin, il n'avait jamais entendu parler du mot Inde. D'ailleurs, son prénom est un prénom français, Gilbert. Et c'est le symbole d'une politique assimilée. Je me suis embarqué dans un mot que je n'arriverai pas à dire. Donc, sur l'assimilation que la France a voulu imposer à ses anciens empires coloniaux, c'est le cas, par exemple, des Maghrébins qui débarquent en France après les indépendances. Et les Moïses sont rebaptisés Maurice. Les prénoms avec des H, on met des T à la fin. Enfin bon, on regarde le calendrier grégorien, c'est exactement la même chose partout. Et donc, quand vous commencez à creuser un peu, à vous intéresser un petit peu à cette histoire spécifique de ce qui s'est passé à La Réunion, vous vous rendez compte quand même qu'il y a beaucoup de choses qui ont un lien direct avec ce que je raconte dans le film, donc effacement d'identité et étouffement de culture. Et ça s'est passé à La Réunion. La singularité, c'est que ça s'est passé à La Réunion sur le terrain, un terrain d'esclavage et d'engagisme, mais ça s'est passé aussi dans beaucoup de régions du monde et beaucoup de régions françaises. Donc, c'est ce qui m'a intéressé. Mais pour revenir à l'histoire de La Réunion, ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est que cette histoire, elle est nécessaire. Il est nécessaire qu'elle soit racontée d'abord parce que on a un devoir de mémoire. Et puis surtout, parce qu'elle est extrêmement récente, l'esclavage a été aboli il y a 180 ans. 180 ans, c'est 6 générations. C'est rien. C'est-à-dire que... et encore, on parle de l'abolition, puisque évidemment, dans les faits, ça a continué, mais sous une autre forme, ça a été l'engagisme, qui est une espèce d'esclavage un peu plus soft, c'est-à-dire que les personnes qui arrivaient étaient soi-disant venues de leur propre chef, mais vivaient dans les mêmes endroits que où vivaient les esclaves. Avant, les esclaves devaient... les maîtres avaient au moins ce devoir de les nourrir et de les blanchir, en général très mal, mais toujours est-il qu'ils les nourrissaient, les blanchissaient. Les engagés vivaient dans les mêmes endroits, mais devaient payer leur loyer au maître. Donc en fait, le maître donnait d'une main un salaire et récupérait de l'autre. Donc autant vous dire que c'était un marché de dupes. L'engagisme s'est fini en 1938, donc 3 générations. Et les dernières personnes descendantes à avoir vécu dans ces camps d'engagés datent des années 90. donc une génération. Et cette histoire n'est pas racontée. Donc, ça vous donne une population qui a un mal-être de post-traumatique. Post-traumatique, on peut pas parler d'autre chose. Et qui ne sait pas pourquoi.
Oui, c'est ça. Les causes sont pas identifiées.
Mais ouais, et qui, évidemment, ça l'intéresse. Et puis, quand même, c'est des îles qui ont fait leur richesse, la richesse de certains, sur l'exploitation de la majeure partie de la population. Voilà, l'industrie sucrière existe toujours à La Réunion. Il y a des fortunes qui se sont faites là-dessus, et c'est une réalité. Et l'ironie de tout ça, et le drame de tout ça, c'est que l'alcoolisme qui ronge une partie de la population, parce que il y a des situations qui sont parfois très difficiles à vivre psychologiquement, l'alcoolisme, malheureusement, c'est le résultat de la canne à sucre et du rhum qui en découle, et ce rhum qui est cette canne à sucre qui a été cultivée par des ancêtres esclaves. Enfin bon, c'est juste c'est absolument dramatique. Donc tout ça pour dire que s'interroger sur son identité, c'est important, et trouver les réponses. Donc moi, je me suis posé beaucoup de questions, et je participe avec ce film sur Ziskaquan à essayer d'apporter des solutions. C'est extrêmement prétentieux que d'imaginer ça, mais en tout cas de participer au travail de mémoire. Et la télévision, les documentaires, le cinéma sont aussi un moyen formidable. La culture est un moyen formidable pour réussir à transmettre une histoire.
Oui. Et en réalisant et produisant donc Ziskaquan, une révolution créole, est-ce que tu as découvert beaucoup de choses que tu ne savais pas ? Est-ce qu'il y a vraiment eu des grosses surprises ou est-ce que l'ensemble des choses, tu les avais
Par exemple, en effet, par exemple, je montre ce camp d'engagés qui se trouve à la Cafrine, à côté de l'endroit où est né Gilbert Pugna. Je suis tombé de ma chaise quand j'ai appris que les derniers à avoir vécu là sont partis en 95. Même que j'en montre des images d'ailleurs d'un camp d'engagés, oui. De 79, hein. Des images d'archives. Je me dis waouh, c'était quand même ça, c'était incroyable. Ça, c'est l'aspect social. J'étais au courant des violences politiques, mais j'étais pas conscient qu'il y avait eu autant de personnes qui étaient mortes. Il y a une dizaine de personnes qui sont mortes entre les années 50 et 80 dues aux violences entre camps opposés pendant les élections, où le bourrage d'urne était un sport local. Et puis sur l'aspect plus inspirant et plus artistique, j'ai découvert surtout que tous ces mecs-là, moi j'étais conscient de l'histoire, mais je ne me suis pas rendu compte quand je la connaissais. On s'en rend jamais compte, on s'interroge jamais vraiment. Ils avaient tous entre 17 et 25 ans, quoi. Et ils étaient dans un endroit qui était donc sous la censure, où il y avait les renseignements généraux qui venaient, qui relevaient le nom des gens qui étaient là. Ils avaient des menaces psychologiques, des menaces physiques. Et puis, ils ont fait des choses extrêmement belles. La littérature était magnifique. J'ai découvert, par exemple, tout ce travail des éditeurs tels que Les Chemins de la Liberté de Firmin Lakhpatia, qui mériterait un documentaire à lui tout seul, ou avec les dessins d'Alain Séraphine et d'autres, qui étaient sérigraphiés dans les arrière-cours, ou alors qui étaient rototypés, et qui étaient agrafés, qui étaient vendus sous le manteau à la sortie des meetings, avec des poèmes en créole extraordinaires et surtout des illustrations, mais d'une beauté incroyable. Ça, je l'ai découvert, je ne savais pas. J'ai découvert pas mal de petites choses. Par exemple, j'avais entendu parler des prêtres rouges, comme on dit, des prêtres communistes, mais je n'avais pas vraiment conscience qu'il y avait une solidarité aussi de l'Église qui, malheureusement, a fait plus
servait de studio d'enregistrement.
Oui, on a eu une église qui a servi de studio d'enregistrement à leur premier album, mais malheureusement, dans l'ensemble de l'empire colonial français et même en général, l'église n'a pas été parmi les plus vertueuses quand même. Elle a participé à l'oppression, et donc il y avait des résistants. J'ai découvert l'exil. Il y a quand même 12 fonctionnaires guadeloupéens, réunionnais, martiniquais qui ont été exilés, c'est un truc de dingue, parce que communistes, de 1960 à 1972. Eux et leurs familles ont été envoyés en France métropolitaine en leur disant « vous ne pouvez pas rester là » parce qu'ils étaient soi-disant agitateurs de l'ordre public. Là, on parle d'un truc qui est contemporain, je ne vous parle pas de... et qui est en France, je ne parle pas de la Chine de Mao. Hein. Donc, tout ça, je l'ai découvert, et évidemment que... J'ai, et c'était important d'en parler. Après, c'est des petits bouts du film et c'est ce qu'il thématise. Mais c'est vrai que si vous vous posez, vous avez presque envie de tirer les fils et de faire des sous-films de chaque partie de ce film.
Alors, en 1979, donc c'est la naissance officielle de Ziska Khan, pour la fierté. Dans le commentaire, on entend « il fallait casser la honte, ouais. Inutile de s'excuser pour parler créole ». Et à un autre endroit, on entend aussi « sous De Gaulle, le créole était banni de l'espace public et pas une ligne des manuels scolaires n'enseignait leurs origines aux jeunes réunionnais ». L'un des témoins dans le film, proche de Gilbert Pugna, je crois, dit qu'ils n'ont jamais demandé à ce qu'il n'y ait plus de langue française et que tout soit créole à La Réunion, qu'ils voulaient juste que les deux puissent cohabiter, que leur culture en fait puisse continuer d'exister à sa juste place sans être écrasée par une culture dominante imposée de l'extérieur. Même aujourd'hui, et je dirais presque plus que jamais, en métropole, on a du mal à accepter cette idée. Qu'est-ce qui bloque, à ton avis ?
Bah, je sais pas. C'est Alain Armand qui dit ça dans le film. Hein. C'est important. Oui. C'est vraiment un passage important. C'était le premier président de l'association Ziska Khan. C'est un immense intellectuel. C'est un auteur. Et il est. C'est fondamental de qu'il dise ça parce que il y a quelque chose de très inclusif. C'est-à-dire que il y a en effet. Une honte de soi. Dès lors qu'il y a une langue officielle et que la langue de l'intime ne permet pas d'exprimer l'intime, les souffrances ou la beauté, peu importe, mais juste de s'exprimer dans l'espace public, ça renvoie aussitôt à quelque chose de supérieur. Mais tu sais, je me faisais cette réflexion la dernière fois, c'est que au moment du démantèlement des différents empires coloniaux, les anglo-saxons, les britanniques ont créé le Commonwealth. Le Commonwealth, ils ont dit à leurs anciens colonisés, ils ont dit « bon, on fera toujours partie d'un grand tout, la reine restera votre reine », donc ça c'est quand même pas forcément une vraie émancipation, mais quand même. Ils leur ont dit « on va faire du commerce ensemble ». Point à la ligne. En revanche, les Français, ils ont créé la francophonie. Et ils ont dit « ce serait bien quand même qu'on garde une espèce de culture commune ». Et dans francophonie, il y a quand même France, donc avec cette espèce de supériorité culturelle. Et tout ça de manière très hypocrite, pourquoi faire ? Pour faire du business dessous. Et je pense que fondamentalement, il y a une approche des choses totalement différente. Et donc, il y a quand même. La France a dominé le monde pendant très longtemps, donc je pense qu'on est très prétentieux, au final, nous les Français. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle très mal anglais, parce qu'on considère comme, à un moment donné, le monde entier voulait parler français. Ce qui est plus tellement le cas aujourd'hui, et que je pense qu'il y a quelque chose... Je fais de l'analyse sociologique de comptoir, hein. Je ne suis pas un spécialiste, ni un linguiste, ni un politologue. Je pense que c'est dans nos gènes d'avoir cette espèce de sentiment de supériorité sur des populations qui ont été d'anciennes populations colonisées, et donc qui renvoient toujours à cette espèce de rapport... Parce qu'on parle de la même chose hein, pour les Basques, les Bretons, les Corses. C'est pas à Paris que ça se passe.
Oui, c'est ce qui est dit dans le documentaire aussi. Cette mise en réseau de revendications en fait, qui finalement deviennent universelles, même si c'est avec des cultures différentes et des histoires différentes.
Donc, je pense que ça, c'est entre autres lié à ça. Voilà. Ensuite, juste pour rebondir sur ce que tu disais aussi sur Sully Andoche qui dit pas besoin d'avoir honte de parler créole. C'est ça le mouvement de Ziska Khan en fait, c'est ne plus baisser la tête. C'est quelque chose de très commun à toutes les régions du monde et à tous les individus. C'est à quel moment on accepte qui on est. Et de façon à avancer sereinement vers l'avenir. Et quand tu rentres dans la tête des gens petit à petit que leur langue elle est sale, que c'est pas joli, que c'est petit à petit ça finit par prendre. Et le travail de
leur couleur aussi.
La couleur, ah oui évidemment, les origines sociales.
Leur couleur est sale, même encore aujourd'hui. Exactement. On peut entendre ça dans certaines écoles des enfants.
Oui, bien sûr, c'est très complexe. Oui. Mais même les origines sociales. Donc c'est vrai que le travail de Ziska Khan ça a été et ça faisait partie de leur souci initial, c'est de dire on va prouver que le créole est joli, que c'est quelque chose, que c'est une langue et qui peut avoir quelque chose d'extrêmement esthétique. Et donc, ils ont été très attentifs à créer une poésie.
Pour enchaîner avec ce que tu disais, donc dans les années 80, j'étais un peu surprise, parce qu'en fait, je dois avouer quelque chose, moi aussi, c'est que Ziska Khan, en fait, je connaissais Ziska Khan, curieusement, parce qu'il y a, enfin, à mes tout débuts, donc il y a pas loin d'une trentaine d'années aussi, j'animais une émission musicale sur Aligre FM, radio de notre capitale. Voilà. Et donc, c'était oui, au milieu des années 90. Et j'ai reçu un jour un CD de Ziska Khan. Mmh. Et en fait, donc, je recevais de plus en plus de CD et je n'avais pas... En fait, je ne savais pas du tout, j'avais aucune notion de ce qu'ils représentaient, de leur combat, de leur histoire, de leur contexte et tout ça. Et quelqu'un m'avait appelé, et je crois que c'était Gilbert Pugna, pour me demander pourquoi je ne les invitais pas dans mon émission, tout ça. D'accord. Et je dois avouer que j'ai été passée, mais complètement à côté. J'avais juste écouté distraitement, sans rien comprendre, tout ça. Et en fait, je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir reparler d'eux, parce qu'à la lumière de ton documentaire que j'ai visionné deux fois avant de faire l'interview, je me suis rendu compte à quel point, et donc c'est là où je voulais rejoindre notre interview, à quel point Ziska Khan, ça a été un bouillonnement culturel.
Bien sûr.
Et je m'en suis voulu d'être passée à côté à l'époque, parce que franchement, c'est quand même impressionnant, parce qu'il y avait une radio, une boutique, des travaux de recherche sur la langue créole, des éditions, des aides à des manifestations culturelles. C'est incroyable tout ce qu'ils ont réussi à créer. Et en plus, ça a fait beaucoup de petits, apparemment, d'après ce qu'on apprend dans le documentaire.
Oui, bien sûr. Après, c'est une partie que j'évoque assez rapidement à travers le commentaire, parce que, en fait, la vraie difficulté que j'ai eue avec ce film, c'est qu'il y a très peu d'archives, en fait. Je voulais parler de la radio. Aujourd'hui, à la place de la radio, il y a une boutique, et il y a très peu de photos de ça. Il y a très peu de mémoire. Donc, j'ai aussi été attentif à pouvoir illustrer ce qui était dit, sinon c'était juste l'histoire de l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu la bête, et donc bon là, ça aurait été... Et je dis ça parce que là, c'est mon seul regret, c'est que j'aurais adoré quand même faire un petit volet sur la radio. Ils avaient une radio libre, et je trouvais que c'était tellement incroyable à cette réflexion. C'est-à-dire qu'en fait, comme ils étaient absents de l'espace public, ils se sont dit, ok, pas de problème, on va créer notre radio, on va créer notre système, on va créer notre boîte d'édition, on va éditer des bouquins, on va éditer des livres, on va éditer des disques, on va, on n'y arrive pas, on va acheter une sono. Et comme ça, comme on ne veut pas nous en prêter, c'est pas grave, on aura une Méhari bleue et on fera le tour de l'île avec notre sono pour prêter aux autres. Ça marche pas, on va produire aussi des groupes. Toute cette partie-là, et puis d'abord c'est un film de 52 minutes, hein, et c'est compliqué de résumer 43 ans d'histoire, 30 heures de rush, 52 minutes, il a fallu faire des choix. Et ça c'est la partie que j'évoque rapidement pour me concentrer sur le combat créole et sur la manière dont l'identité effacée a pu à un moment donné être un peu plus exposée qu'elle ne l'était à l'époque.
J'ai entendu dans le documentaire, en 43 ans, plus de 100 militants ont participé à l'aventure. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Et puis, aujourd'hui, le Maloya donc, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est le Maloya, pour ceux qui ne connaîtraient pas, et quel lien avec Ziska Khan?
Le Maloya, c'est la musique des esclaves qui était chantée dans les camps d'esclaves. C'est le blues de l'océan Indien, qui n'a pas forcément le même nom selon les îles Rodrigue, Maurice ou Madagascar, mais c'est un patrimoine, ou même les Seychelles, c'est un patrimoine de l'océan Indien. Et c'est une musique qui était clandestine, qui n'était pas autorisée dans l'espace public, et donc qui était jouée dans les arrière-cours, c'est une musique qui est souvent associée aussi à des rites indiens, malgaches, comoriens, et c'est une musique qui a été valorisée par le Parti communiste réunionnais dans ses meetings. C'est le Parti communiste qui a payé le premier enregistrement connu de Maloya, l'album de Firmin Viry en 1976. C'est dans les meetings du Parti communiste que Ziska Khan a commencé à s'exprimer, et en tout cas dans le giron du Parti communiste. Et en fait, Ziska Khan, évidemment... à jouer du maloya, mais à sa façon, en fait, dans le... c'est aussi un rythme, c'est-à-dire que le maloya traditionnel, c'est une percussion, une énorme barrique avec une peau de bœuf qui s'appelle un rouleur, qui marque la pulse. Il y a un kayam, qui est une espèce de maracas à plat. J'essaie de donner une indication visuelle, oui. Donc ça fait des il y a un sati, c'est une percussion en métal. Il y a le piqueur, c'est une percussion en bambou. Il y a le triangle, qui est très important dans les instruments. Et il y a le bobre, qui est l'équivalent du birimbao qu'on retrouve au Brésil. Donc ça, c'est la base même du maloya. Ce sont ces instruments-là. Ce sont des instruments traditionnels, je crois ne rien avoir oublié. Rouleur, piqueur, sati, bobre, triangle, kayam. Oui, c'est ça. Ça, c'est les six instruments qui composent la base du maloya traditionnel. Et Ziskakan, qui est arrivé, a rajouté de la guitare, de la guitare arpège, a proposé d'autres choses en gardant cette rythmique. Et en fait, Ziskakan a participé à ce mouvement de reconnaissance du maloya. À la même période, il y avait un groupe qui s'appelait Zalindor, qui se trouvait à Saint-Benoît de la Réunion. Et puis il y avait les Flamboyants, il y avait Daniel Waro et son frère Gaston, qui lui était dans les hauts du tampon. Daniel Waro qui aujourd'hui est le premier représentant du maloya. Et Daniel, lui, fait vraiment du maloya traditionnel, même si c'est un peu réducteur ce que je dis, parce que, en tout cas, du maloya percussif, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais en tout cas, c'est de la percussion. Ziskakan est allé vers autre chose, quelque chose inspiré de la folk, de la musique régionaliste, bretonne notamment, inspiré de la musique classique, du rock, du blues. Et donc ce maloya qui, à l'époque, était dans les arrière-cours et clandestin, aujourd'hui reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO, pas seulement grâce à Ziskakan, mais Ziskakan a participé, évidemment, de ce mouvement de reconnaissance.
Et donc ce documentaire Ziskakan, une révolution créole, on rappelle le titre à chaque fois, va donc être diffusé le 1er mai prochain à 23h sur France 3, une chaîne nationale, et c'est diffusé en créole réunionnais, sous-titré. Donc ça, c'est pas anodin. Qu'est-ce que ça représente? En quoi c'est important? Est-ce que ça a été difficile?
Ça a été... Alors ça représente quelque chose d'important parce que c'est une vraie reconnaissance d'une expression, d'une langue vernaculaire qui longtemps a été étouffée, donc... Même si aujourd'hui elle est enseignée et qu'elle n'est plus du tout dans ces conditions d'oppression, c'est quand même une espèce de validation. Ça n'a pas été difficile parce que c'est le propre même du film de raconter ça. C'est de raconter comment des jeunes ont réussi à faire exister le créole au détriment d'une culture oppressante et aliénante. Donc, la discussion s'est faite en 30 secondes. J'ai dit, on est d'accord que ça se fait en créole. T'es sûr? Je dis, on parle quand même de gens qui vont raconter leur combat pour le créole. Ok. Et on est d'accord que c'est sous-titré. Ouais, mais enfin, sur France 3, je dis, ouais, mais bon, en même temps, ils se sont battus pour ne pas être écrasés par le français. Vous allez faire parler en français sur eux. Et ça a été, ouais, t'as raison. Ça a été assez simple, en fait. Et donc, le film est en effet en créole sous-titré. À 95%, les commentaires sont en français. Dit par Abdelmalik, et je crois qu'il y a une interview en français à l'intérieur du film. Et puis ce qui est important aussi, c'est que je n'ai pas fait un film d'expert, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout fait cette biographie avec des journalistes qui les ont suivis, les photographes qui les ont suivis. Je n'ai que des acteurs de terrain, des acteurs du mouvement.
Qui témoigne.
Je ne me suis concentré que là-dessus, avec des archives, des photos. On est retourné sur les lieux où ça s'est passé. Il y a des scènes avec beaucoup, beaucoup d'émotions. Il y a des scènes de retrouvailles. J'ai vraiment raconté le film de leur point de vue. C'était vraiment très important pour moi que ce soit de leur point de vue et pas du tout un regard extérieur qui raconte à quel point c'était incroyable. Il y a un expert à l'intérieur du film, voilà, l'exception qui confirme la règle, mais qui était importante, c'est le directeur de la bibliothèque départementale de La Réunion, qui fait ce petit, qui me présente l'état des lieux culturels de l'époque, et notamment en termes de littérature, et qui était beaucoup plus importante qu'on ne pouvait l'imaginer. Et puis, j'ai pas tiré ce fil parce que j'avais pas le temps de tirer tous les fils, mais Pierre-Henri Aho, qui est le directeur de la bibliothèque départementale, est aussi le neveu de l'un des membres de Ziskakan, Patrice Trotta.
Tu écris aussi, l'héritage de Ziskakan est certes culturel, mais j'y vois aussi un encouragement à lever la tête et à éteindre la honte qui étouffe malheureusement trop souvent les envies d'émancipation et d'élévation sociale de la jeunesse. Est-ce qu'il y a des choses transposables à d'autres réalités ?
Je crois que quand je dis ça, c'est l'histoire du film, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on va voir Tiluk, ce vieil indien de 76 ans, dans sa boutique, qui raconte qu'on le traitait de païen quand il était gamin, et qu'aujourd'hui il dit « maintenant on peut lever la tête », j'ai trouvé cette scène extrêmement émouvante quand même, d'imaginer la vie de souffrance psychologique. Baisser la tête, c'est quand même avoir honte de ce que l'on est. Et avoir honte de ce que l'on est, c'est ne pas trouver sa place. Là, j'invente rien. C'est ce que dit Annie Ernaux dans ses écrits. C'est que ce soit la place, que ce soit la honte. Enfin, moi, la honte, quand j'ai lu ce livre, ça touche tellement. C'est pas que la honte sociale, ethnique ou autre, c'est la honte juste d'être de ce que l'on est, de pas être capable de pas être à sa place, de pas trouver sa place, et de penser que ce n'est pas pour soi. Donc je pense que la culture, que ce soit Annie Ernaux dont je viens de parler évidemment, qui est une immense dame de la littérature, mais tous ces poètes, tous ces plasticiens, tous ces musiciens rayonnés que j'ai mis en avant, eh bien participent à aider tout un chacun, et quel que soit son âge d'ailleurs, à un moment donné accepter qui il est, à avancer malgré les freins, ou en tout cas à prendre en considération que les freins sont extérieurs et se libérer de ces barrières mentales. Cette chanson de Bob Marley, Redemption Song, Bob Marley dit « Emancipate yourself from mental slavery ». Tout est dit. Il faut réussir à briser ces chaînes mentales qui nous empêchent de nous envoler. Et c'est ce que dit Alain Armand, hein, quand il dit « Laissez-nous, ne nous écrasez pas, laissez-nous voler avec nos identités multiples, laissez-nous vivre ».
Et ce processus qu'on retrouve dans plein de moments de l'histoire mondiale et à plusieurs endroits sur la planète, de transformation de la honte en fierté, ce qui était un des objectifs de Ziska Khan. Ce que j'ai trouvé drôle, c'est qu'en fait, à la fin du documentaire, quand on voit son fils et sa fille, donc Maya Kamati, qui est à l'origine du documentaire, et en fait, tous les deux, on a l'impression aussi ils disent qu'ils sont passés complètement à côté de l'histoire de leurs propres parents, de Ziska Khan et tout ça, et que finalement, elle, c'est en venant, je crois, à Montpellier faire ses études qu'elle réalise, le petit texte qui accompagne.
Oui, c'est ça, c'est bien.
Et elle réalise, en fait, là, et du coup, cette part de quand même son histoire, alors vraiment personnelle pour du coup, elle est passée à côté. Ils sont passés à côté, ça a été ignoré, et ça devient une fierté puisqu'elle souhaite en faire un documentaire. Fait, et je trouve que c'est assez intéressant. De ce parcours vraiment personnel, quoi.
Oui, et puis après, c'est très humain. C'est-à-dire que quand on est adolescent et post-adolescent, on veut s'émanciper, se détacher de ce truc qui est un peu lourd, du poids des parents. Et là, leur histoire, leur héritage familial, il est double parce qu'il est à la fois familial, papa-maman, et puis en même temps, il est culturel. Et quand on voit le poids de ce qu'ils ont fait, donc il leur a fallu un certain temps pour s'en rapprocher, ce que je peux comprendre. Parce que ce ne doit pas être facile non plus d'avoir cet héritage. Puis la vie avec des musiciens, des parents musiciens, ne doit pas être toujours facile.
Oui, déjà sans tout le reste du contexte.
Voilà, je suis resté neutre dans ce que j'ai dit. Voilà.
Oui. Donc, Ziska Khan, une révolution créole, un film documentaire de 52 minutes, écrit et réalisé par Sébastien Follin, raconté par Abdal Malik, d'après une idée originale de Maya Kamati. Le documentaire sera diffusé le 1er mai 2023 à 23h sur France 3 et ensuite en replay pour ceux qui écouteraient le podcast après la diffusion. Est-ce qu'on sait pendant combien de temps il va rester?
Il va être au minimum 3 mois. Après, il va passer sur Canal Plus Réunion, il sera disponible sur la plateforme MyCanal. Il va avoir sa vie, il sera disponible. Disons que d'ici la fin de l'année, il sera disponible autant sur MyCanal que sur France.tv.
D'accord. Et il y a eu donc des projections en salle pour les avant-premières. Est-ce qu'il y aura d'autres projections en salle ?
Peut-être. J'ai des sollicitations de différents festivals. Je vais voir un petit peu. Mais oui, tout à fait. Je vais essayer d'en organiser. Je pense. Enfin, je vais essayer d'en réorganiser une officiellement à l'automne.
D'accord. Et j'ai vu que le groupe Ziskakan, eux, ils sont en tournée en Inde
tout
en
à fait.
Ce moment.
Ils sont en Inde actuellement, oui, complètement.
Voilà, donc tout se relie.
Oui, complètement. Ils y vont assez souvent. Enfin, ils y vont régulièrement, pour pas dire plutôt que assez souvent. Et là, ils y sont actuellement. Oui.
Qu'est-ce que tu souhaites pour ce documentaire aujourd'hui, avant la diffusion et pour sa vie à venir ?
Écoute, je souhaite qu'il soit le plus vu possible. Alors ça, c'est tout le monde a envie que son film soit vu. J'ai surtout envie qu'il soit. Là, je l'ai traduit en anglais. Je vais le traduire en espagnol et en portugais. Et j'ai envie qu'il soit vu dans le maximum d'endroits. J'ai envie qu'il soit vu en Louisiane, qu'il soit vu au Cap-Vert. J'ai envie qu'il soit vu dans la Caraïbe. J'ai envie qu'il soit vu au Brésil. J'ai envie qu'il soit vu en Afrique. Qu'il soit vu en Inde. J'ai envie qu'il ait cette. Et puis évidemment qu'il soit vu par le maximum de Réunionnais. J'aimerais que ça devienne un outil pédagogique pour les écoles. J'ai fait des projections scolaires quand je suis allé à La Réunion, parce que j'y ai tenu. J'y suis allé faire une projection en avant-première, mais aussi j'ai fait deux projections scolaires. Ça, j'adorerais pouvoir en organiser d'autres. Après, moi, je suis à Paris, donc j'ai lancé des pistes. J'espère que les gens à qui j'ai tendu la perche la saisiront. En tout cas, j'adorerais qu'il ait cet écho international et universel. Quand j'en parle, donc, je le disais, hein, Corse, Breton, Occitan, Basque, Breton sont concernés, mais j'ai échangé avec une Irlandaise qui m'a dit « mais c'est incroyable, c'est l'histoire de mes parents », un Malien, un Capverdien, une Brésilienne qui m'a dit « mais ce film, il est incroyable », parce qu'il raconte, hein, j'entends. Et donc, je pense que, en tout cas, j'adorerais ça. J'adorerais que ça se passe comme ça.
Bon, eh bien, on va croiser les doigts, alors.
Mais oui, croisons les doigts, j'espère que ça marchera.
Oui. Un grand merci, Sébastien Follin, pour ce temps que tu nous as consacré dans ton emploi du temps très chargé,
oui,
qui
va.
Nous
merci
permet
beaucoup.
De donner envie, j'espère, de voir ce documentaire. Et si vous écoutez le podcast après, n'oubliez pas, il est en replay sur la plateforme de France Télévisions pendant au moins 3 mois. C'est sur France 3, donc. Et on souhaite longue vie à ce documentaire. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Anne. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Chères auditrices, chers auditeurs de So Sweet Planet, si cette interview vous a plu, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Je vous rappelle que je réalise seul tous les contenus des podcasts et du site internet sosweetplanet.com et je suis indépendante. Vous pouvez donc soutenir mon travail sur Patreon par une contribution ponctuelle ou à partir de 3 euros par mois. Vous aurez accès à des contenus exclusifs et à vos épisodes de podcast sans publicité. Vous trouverez le lien vers mon Patreon dans le texte de cet épisode. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous accéderez à la page du Patreon de So Sweet Planet sur laquelle je vous explique pourquoi j'ai besoin de votre soutien et vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe, donc n'hésitez pas, à tout de suite.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.